Les sociétés littéraires. Cette question est souvent soulevée, les sociétés littéraires sont-elles un bienfait pour nos jeunes? Pour répondre correctement à cette question, nous devons considérer non seulement le but avoué de ces sociétés, mais aussi l'influence qu'elles exercent, comme le montre l'expérience. Améliorer son esprit est un devoir dont l'accomplissement dépend de nous-mêmes, de la société et de Dieu. Mais nous ne devons jamais concevoir des moyens de cultiver notre intelligence dépend des valeurs morales et spirituelles. Ce n'est que grâce à un développement harmonieux des facultés mentales et morales qu'il est possible d'atteindre la perfection. Est-ce le résultat obtenu par les sociétés littéraires telles qu'elles sont généralement envisagées? Les sociétés littéraires exercent presque universellement une influence à l'opposé de ce que suggère leur nom. Telles qu'elles sont généralement organisées, elles sont une offense pour les jeunes, car Satan vient poser son sceau sur ce qu'on y fait. Tout ce qui amène les hommes et les femmes à être dignes de ce nom, est un reflet du caractère du Christ. Moins le Christ est présent dans ces sociétés, moins elles élèvent, affinent et ennoblissent. Quand les hommes du monde dirigent ces réunions comme ils le souhaitent, l'Esprit de Christ en est absent. L'Esprit est entraîné loin de toute réflexion, loin de Dieu, loin de ce qui est réel et substantiel, pour ne laisser place qu'à l'imaginaire et au superficiel. Parlons-en, des sociétés littéraires. Si seulement leur nom exprimait leur véritable nature. Qu'est-ce que la balle comparée au grain? Les objectifs conduisant à la formation d'une société littéraire sont peut-être valables, mais si la sagesse divine ne préside pas à ces organisations, elles deviennent de vrais mots. Des hommes irréligieux, dont le cœur et la vie ne sont pas dédiés à Dieu, y sont généralement admis et chargés d'y assumer des responsabilités. Sans doute que des règlements sont adoptés et supposés suffisants pour écarter toute influence pernicieuse, mais Satan, rusé général, s'efforce de façonner la société selon ses desseins et, trop souvent, y réussit avec le temps. Notre grand adversaire trouve un accès facile auprès de ceux sur lesquels il a déjà exercé son pouvoir, accomplissant ses objectifs par leur intermédiaire. Des divertissements variés sont introduits pour rendre les réunions intéressantes et attrayantes aux yeux des gens du monde, c'est pourquoi les activités de ces prétendues sociétés littéraires dégénèrent trop souvent en performances théâtrales démoralisantes et en jeux insensés. Tout cela plaît à l'esprit charnel opposé à Dieu, sans fortifier l'intellect ni renforcer les valeurs morales. L'association entre hommes craignant Dieu et un croyant dans ces sociétés ne fait pas des pécheurs des personnes saintes. Quand le peuple de Dieu s'unit délibérément avec des hommes mondains, non consacrés au Seigneur, et leur donne la prééminence, il est entraîné loin de lui sous l'effet des influences non sanctifiées sous lesquelles il s'est placé. Pendant un temps, rien de regrettable ne se passe, mais l'esprit qui ne s'est pas soumis au contrôle de l'Esprit de Dieu ne se laisse pas facilement attirer par ce qui a saveur de vérité et de justice. Si ces personnes avaient eu quelque goût pour les choses spirituelles, elles auraient déjà rejoint les rangs de Jésus-Christ. Ces deux classes de gens sont soumises à des maîtres différents et s'opposent dans leurs buts, leurs espérances, leurs goûts et leurs désirs. Les fidèles de Jésus apprécient les thèmes sobres, de bon sens et propres à ennoblir, tandis que ceux qui n'ont aucune attirance pour le sacré ne prennent plaisir à ces réunions que si ce qui est superficiel et imaginaire est mis en avant. Peu à peu, l'élément spirituel est évacué par l'irréligieux et l'effort d'harmoniser des principes qui sont par nature opposés, est un échec. Des tentatives ont été faites pour la création d'une société littéraire qui soit un bienfait pour tous ceux qui la fréquentent, une société dont tous les membres se sentent la responsabilité morale de la rendre telle qu'elle devrait être, en évitant les maux qui rendent souvent ces sociétés dangereuses pour les principes religieux. Des personnes discrètes au jugement sûr, ayant une relation vivante avec le ciel, capables de discerner les mauvaises tendances et ne se laissant pas séduire par Satan, parcourant sans hésiter des sentiers intègres en levant constamment la bannière du Christ, telles sont les personnes dont on a besoin pour contrôler ces sociétés. L'influence qu'elles exercent commande le respect et fait de ces réunions une bénédiction. Si des adultes mûrs voulaient s'associer à des jeunes pour organiser et diriger des sociétés littéraires, celle-ci serait à la fois utile et intéressante. Mais quand de telles réunions dégénèrent en hilarité et divertissement bruyant, elles n'ont plus rien de littéraire ni d'ennoblissant. Elles sont avilissantes pour l'esprit et la morale. La lecture de la Bible, l'examen attentif de thèmes bibliques, des essais rédigés sur des sujets qui affinent l'esprit et renforcent la connaissance, l'étude des prophéties ou des précieuses leçons du Christ, voilà ce qui fortifie l'intellect et développe la spiritualité. La fréquentation régulière des Écritures aiguise le discernement et protège l'âme contre les attaques de Satan. Peu de gens réalisent qu'il est nécessaire de contrôler ses pensées et son imagination. Il est difficile de garder l'esprit fixé sur des sujets bénéfiques. Mais si les pensées ne sont pas correctement dirigées, la religion ne peut s'épanouir dans l'âme. Il faut que l'esprit se préoccupe de choses sacrées et éternelles, sinon il chérira des pensées vaines et superficielles. Tant l'intellect que les forces morales doivent être disciplinées et améliorées par des exercices. Afin de bien comprendre cette question, n'oublions pas que le cœur est naturellement dépravé et que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre le droit chemin. Ce n'est que par la grâce de Dieu, associée à des efforts sincères de notre part, que nous serons victorieux. Consacrons notre intelligence et notre cœur à servir Dieu. Il a des droits sur nous tous. Le disciple du Christ ne se laissera aller à aucune gratification personnelle, ne s'engagera dans aucune entreprise, même innocente et louable en apparence, si sa conscience lui indique que cela risque d'abattre son ardeur ou d'affaiblir sa spiritualité. Chaque chrétien doit s'efforcer de repousser la marée du mal et de sauver nos jeunes des influences négatives qui risquent de les balayer. Puisse Dieu nous aider à remonter le courant.